offensant et déplacé, ce dont j'étais apparemment le seul à avoir douloureusement conscience. Alors que je riais, bien sûr, moi aussi, me maudissant de rire, maudissant ton père, ta mère, et toi aussi, toi, surtout, nous maudissant tous pour la bassesse de nos rires serviles, jusqu'à ce que tu sortes finalement de la salle de bain, rayonnante et parfumée, menaçant Philippe d'un index espiègle avec des airs faussement sévères de maîtresse d'école avant de l'absoudre d'une pichenette sur le nez dont la tendre magnanimité lui confirmait ce qu'il savait depuis l'enfance, à savoir que lui, Philippe Romani, pouvait agir en toutes circonstances comme bon lui semblait, sans reconnaître d'autres limites que celles de ses pulsions et sans qu'aucune conséquence fâcheuse ou simplement déplaisante s'ensuivît jamais. Les Romani traversaient tous l'existence avec la douce certitude d'appartenir, depuis des temps immémoriaux, à une race élue de seigneurs. Philippe croyait ainsi avec la plus désarmante bonne foi que les quelques mégalithes grossiers constituant le misérable patrimoine archéologique de la région avaient été érigés, quand l'or scintillait déjà aux portes sculptées des palais de Mycène, par ses lointains ancêtres, lesquels avaient certainement dû surgir dans toute leur gloire du sein même de la terre nourricière, au lieu de se contenter, comme ceux du commun des mortels, de descendre plus modestement, couvert de loques et de poux, d'un raffio ligure ou baléare échoué sur une plage. Le fait désolant que leurs premiers-nés mâles reçoivent systématiquement des prénoms de rois, d'empereurs ou de héros antiques est sans doute un symptôme particulièrement transparent de leur mégalomanie, comme de leur absence totale de sens du ridicule. Les Romani, portant haut et qui plus est fièrement l'étendard de l'inculture, ils ignoraient évidemment tout de l'origine exacte des personnages historiques ou légendaires qui rendirent ces noms illustres. Et il ne leur parut jamais étrange, comme l'atteste leur grotesque généalogie, qu'un Hector put engendrer un Achille, ou qu'Amilcar fut le grand-père de Scipion, ce qui me permet d'affirmer sans crainte d'un démenti que l'heureuse séquence Philippe-Alexandre ne peut être que le fruit du hasard, ou le résultat d'une intervention de Catalina. Rien ne put jamais ébranler la haute opinion qu'ils se faisaient d'eux-mêmes. Seul comptait ce qu'ils étaient, non ce qu'ils faisaient. Quelle que fût leur turpitude, la supériorité de leur essence inaltérable les préservait du remords ou du déshonneur. On raconte ainsi qu'un grand-oncle de Philippe, François Romani, dont j'avais si peur quand j'étais enfant que je ne pouvais m'empêcher de le regarder avec une fascination morbide, immobile dans son haut fauteuil de velours pourpre au milieu de l'immense salon de la maison de famille, les doigts crispés sur les accoudoirs élimés, la faïence de ses yeux de poupée ouverts sur le vide effroyable, et la bave coulant de sa bouche édentée sur la mâchoire pendante qu'une main ridée de vieille femme essuyait machinalement à intervalles réguliers à l'aide d'un mouchoir de dentelle tout raidi de crasse, tandis que Philippe et moi tentions d'attendrir les gâteaux rassis de notre goûter en les laissant tremper dans nos bols de café au lait. On raconte donc que François, avant qu'une rupture d'anévrisme le cloue pour toujours à son fauteuil, avait pu mener une fière existence d'ivrogne professionnel sans que quiconque dans sa famille s'en offusquât. Il avait ainsi passé l'essentiel de son temps à se saouler dans tous les bars et cabarets de la ville, titubant d'un établissement à l'autre depuis la citadelle jusqu'au port, pissant à plein jet contre le mur de l'église en hurlant des insanités et, finissant immanquablement par s'endormir à même le pavé, vautré dans ses propres vomissures, jusqu'à ce qu'une patronne de bordel compatissante ou un quelconque samaritain le hisse tant bien que mal sur sa mule, penché sur l'encolure ou allongé en travers de l'échine comme un sac de farine, afin que la brave bête le ramène cuvé chez lui jusqu'au lendemain soir. Si quiconque trouvait à redire au comportement de François ou évoquait pudiquement les notions de décence ou de dignité, sa mère se contentait de hausser les épaules avec mépris et disait seulement « On sait qui il est ». Car tout tournait constamment à son avantage, même la défaite et l'humiliation. Cette nuit-là, te souviens-tu ? Nous nous étions accroupis dans l'obscurité d'un fossé entre deux voitures garées le long de la route. Tu te blottissais contre moi en te retenant de pleurer, tandis que j'essayais de ne pas te montrer que j'étais terrifié, alors même que les efforts que je faisais pour me cacher en apportaient la preuve la plus manifeste. Et nous regardions Philippe hurler, la chemise déchirée et la bouche en sang, d'une voix tremblante d'indignation, en agitant un poing rageur dans la direction de la dizaine de types qui venaient de lui coller une rousse